le bon plaisir de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard n'est pas seulement un cinéaste d'exception, toujours en avance. C'est un homme de notre temps qui toujours pose pour nous les questions que nous taisons. Œuvre sans égale, parce qu'elle démystifie l'illusion de réalité par tous les moyens, parce qu'elle est en même temps témoignage, fiction, reportage, enquête, poème, essai politique, journal intime, et qu'elle est aussi au plus haut niveau le cinéma, c'est-à-dire l'expression la plus juste d'un art contemporain. Le bon plaisir de Jean-Luc Godard, c'est une journée passée chez lui, à parler et à regarder les histoires du cinéma. Épopée de 4 heures qui raconte un siècle de cinéma et dont il nous a confié généreusement la bande-son inédite. Toute la ville calme, presque indifférente, est plongée dans une lumière gris-bleue de demi-brume. Il pleut. Et nous reconnaissons le paysage de Hélas pour moi, avec au loin la tache jaune du saule pleureur contre le lac Léman.
Comment est-ce que vous voyez ça, l'installation face à face?
Rien du tout. Bon. Je voulais... Non, non, c'est vous qui décidez. Vous êtes venu par le train?
Oui, TGV, puis voiture de... à Genève. Donc, l'émission s'appelle...
Pas de souhaits particuliers, de son par exemple?
Non, je fais ce qu'on me dit, ou que la situation dans laquelle je me suis mise me dicte, je crois que même. Ce qui est.
Jean, vous vouliez ajouter un mot?
Oui, je pense chacun. Je dirais, je crois que j'ai toujours fait ça depuis ma naissance. Je fais ce que la situation me dicte. Et moi-même, je ne fais pas grand. De moi-même, je ne vois pas ce que je ferai.
Jean-Luc Godard, nous sommes avec vous à Rolles, Rolles qui se trouve au bord du lac Léman, dans votre maison. Nous nous sommes rencontrés à Paris une première fois à propos de Jean-Marie Strauss.
Maison est un bien grand mot, hein. J'ai jamais réussi encore à avoir une maison, non.
Je retire le mot maison.
Non, pas du tout, je crois que c'est le but de tout homme, quand on voit toutes ses affaires. En fait, on se demande jamais pourquoi, mais pourquoi veulent-ils gagner tant d'argent? Ceux qui n'en ont pas beaucoup, bon, un peu, mais c'est jamais ceux-là, ceux-là sont... Et ceux qui en ont beaucoup veulent en gagner. Et en fait, ça se réduit toujours à, pour avoir ce qu'avait l'homme au temps de l'homme des cavernes, c'est-à-dire avoir une maison, avoir accès à la mer et pouvoir se balader dans la forêt. Tout, c'est ça. Tout le monde, c'est, ça me paraît le but. Le reste, c'est des fariboles. Le but de chacun, c'est d'avoir... Alors, il y a des gens plus modestes qui sont prêts à subir toutes les avanies et tous les déshonneurs en échange d'un salaire moyen, 10, 12 000 francs. Et ils ne sont pas regardants sur ce qu'ils font, pourvu qu'ils aient un toit, que ce toit leur permette d'abriter un ami ou une amie et quelques enfants, le reste, comme ça. Les autres, alors il leur faut, une fois qu'ils ont une maison, il leur en faut deux. Une fois qu'ils ont quatre murs, il leur en faut huit. Une fois qu'ils ont une maison en France, il faut... Je crois que c'est ça le but. Enfin, vous prononcez le mot maison et...
C'est un lieu où vous nous accueillez. C'est un lieu où il y a des livres, dont je reconnais quand même certains titres. C'est un lieu où vous travaillez, où vous vous repliez.
Oui, c'est un lieu. Ici, c'est un reste d'atelier comme ça, où il y a des livres, l'autre côté, il y a de la vidéo, c'est pour les histoires du cinéma, et c'est tout.
Alors, nous allons essayer de passer un long moment ensemble, pour parler, entre autres, de votre dernier film, JLG, Autoportrait de décembre, qui a été tourné 35 ans après le premier film, À bout de souffle. Alors, c'est un film qui a la beauté, l'évidence, la simplicité d'À bout de souffle, mais qui me semble tourner autrement. Comme si la question fondamentale était qu'est-ce que la pensée et qu'est-ce que penser le cinéma en aveugle.
Je crois que c'est très différent d'À bout de souffle, qui était strictement des films... Enfin, les films du début sont... Enfin, les œuvres du début sont jamais les œuvres de la fin. Elles se ressemblent, c'est beaucoup plus touffu. Là, c'est plus simple. Je pense effectivement où j'en suis à... J'ai été amené à penser au fur et à mesure que... J'avançais, entre guillemets, dans le cinéma, que j'essayais d'en faire l'histoire et à travers son histoire de voir que d'abord de voir et d'écouter plutôt que d'écrire et de confronter une vision avec une idée déjà de cette vision qui est la façon dont les gens ont toujours fait du cinéma à part l'anglois qui pensait et montrait en même temps pour qui montrait était une forme de pensée. Donc, de penser que le cinéma était fait pour penser, effectivement, ce que tout le monde lui a, sauf un ou deux, lui a dénié très vite, et que de là viennent, je crois, tous nos malheurs, puisqu'il a enfanté la télévision, que lors de cet enfantement de la télévision, la presse... Enfin, la radio a démissionné très vite, elle campe sur un reste de fortification ou d'église ou de ghetto, comme on veut, que la presse s'est alliée avec la télévision tout en faisant semblant d'en être l'esclave et en même temps en étant le maître parce que... Il n'y a qu'à voir les échanges, le bon procédé, la revue des journaux à la télévision, la publication des programmes de télévision dans la presse. Il y a même des journaux qui ne font que publier les programmes de télévision, je veux dire, alors qu'elle ne publie pas les horaires d'Air France ni les horaires de la SNCF, mais elle publie des horaires de communication comme ça. Et donc le cinéma était, enfin, je m'en souviens plus où. Quand je suis parti là-dessus, parce que moi je pars facilement pour aller nulle part.
J'adore Jean-Luc Godard. Bon, la question n'est pas là. Non, il compte parce que c'est d'abord. Il compte numéro un parce que c'est un homme qui a fait des films extraordinaires. Numéro deux parce qu'il est le cinéma lui-même. Et numéro trois parce que c'est un homme qui a voulu, dans sa vie, le jour où c'est Saint-Paul, il a reçu tout d'un coup la révélation de quelque chose, et puis c'est fini, il veut concilier ses idées avec sa vie, ou sinon avec sa vie, avec son œuvre. Bon, vous savez, c'est une chose assez courageuse.
Non ? Henri Langlois.
Vous avez une femme mariée de Godard.
Oui.
Dans une femme mariée de Godard, tout d'un coup, ce sont des acteurs qui jouent. Bon. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose, ils ne sont plus les mêmes. Ils ont l'air de nager un peu, mais ils sont beaucoup plus authentiques. Il y a quelque chose, ils sont beaucoup plus présents plutôt qu'authentiques, parce qu'on leur a dit improviser. Ils n'ont plus de texte à dire, et vous voyez tout de suite la différence. Bon, c'est ça, quoi. Nous allons vers un cinéma où la vérité, il y aura peut-être des histoires inventées, tout ça, mais vous n'aurez pas... ça sera plus direct. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous écrivez un livre, vous prenez une plume et vous prenez une feuille de papier. Le cinéma, on est tout près maintenant du temps où on prendra une plume et une feuille de papier.
Les paysages traversés. Par qui? Par quoi? Si GLG par GLG il y a, que veut dire ce par GLG? Il s'agira de...
Je reprends ma question. À propos de À bout de souffle, vous avez dit « c'est une histoire ». À propos du Petit Soldat, vous avez dit « ce film a un sujet ».
Mais
autoportrait
toujours,
de décembre serait quoi?
Je ne savais pas ce que c'était. L'autoportrait est une figure courante en peinture, uniquement en peinture. Et donc je l'ai appelé comme ça. Après, quand il m'a semblé que ce que je faisais relevait de l'autoportrait plus que de l'autobiographie, et je me suis appliqué, les quelques journalistes qui ont parlé sur le film, bien sûr, ne le voient pas et disent, c'est même JLG par JLG, alors que moi je l'ai appelé JLG, JLG, simplement pour, il y a JLG, disons, dans le miroir ou dans l'auto.
Mais c'est mettre le doigt quand même sur
qu'est-ce que c'est qu'un autoportrait? Ben, il n'y a que la peinture qui a donné quelque chose. Je pense que ça doit être pourquoi est-ce que Rembrandt ou même Madame Vigée-Lebrun faisait son autoportrait. Ça, c'est à la fois probablement pour se montrer aux autres, dans certains, mais quand Gainsborough fait son autoportrait, ça doit être un moyen de regarder sa peinture à soi, sur soi aussi, ou quelque chose qui est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de sens ailleurs. Un romancier ne peut pas faire son autoportrait, il fait forcément son autobiographie. Je pense que là, j'étais autorisé, contrairement aux autres, à essayer de filmer ou d'enregistrer, je ne sais pas comment on dit, de la pensée, ce pourquoi est fait le cinéma. Le cinéma est fait pour enregistrer de la pensée sous une certaine forme de visible. Et ayant enregistré cette pensée ou ces pensées, les mettre en relation selon une idée, un sujet ou une simple histoire, une simple anecdote, de manière à pouvoir faire soit un spectacle, mais... de temps en temps, soit émettre un jugement. Le fond du cinéma qui n'a jamais pu être vraiment appliqué, c'est le montage qui est mettre en relation une chose avec une autre pour émettre un jugement, ce que fait le juge d'instruction ou le médecin.
Je lui disais un jour, mademoiselle, figurez-vous un cube.
Je le vois.
Imaginez au centre du cube un point.
C'est fait.
De ce point, tirez des lignes droites aux angles. Eh bien, vous aurez divisé le cube.
En 6 pyramides égales, ayant chacune les mêmes faces, la base du cube est la moitié de sa hauteur.
Cela est vrai. Mais où voyez-vous cela?
Dans ma tête, comme vous.
Je reviens à mon idée de division. Déjà, à partir du titre JLG, JLG, là, l'image est tout le temps divisée entre le son et l'écriture.
Ce sont les deux dans les histoires du cinéma. J'ai mis une phrase, de, je ne me souviens plus de qui c'est, son, image et son. Je crois que c'est de Bresson. Comme deux personnes qui font connaissance en route et ne peuvent plus se séparer. Le son est venu bien après. Presque tous mes films, si on les voit sans le son, ils tiennent, ils racontent la... pas autre chose, mais une autre façon de voir les choses, les trois quarts. Si vous voyez, bon, un film de Spielberg, vous enlevez le son, ça vous gêne. C'est comme le speaker de télévision, si vous enlevez le son, ça vous gêne. Vous devez autant pas le voir. Tous les bons films, qu'ils soient sonores ou parlants, si on enlève le son ou si on le met, c'est la même chose. Vous rajoutez du son à Stroheim, ce qui est très facile, puisque Stroheim est un des rares à l'époque du cinéma qui faisait du cinéma muet comme s'il était parlant. Je veux dire, quand il avait reconstitué Monte Carlo, tout le son y était. Il avait même demandé que les sonneries du téléphone marchent. Ce qui mettait en rage les financiers, puisque le film était muet. On rajouterait du son, ça ne changerait rien au rapace ou à folie de femme.
Mais chez vous, le son détourne sens. Ou l'entraîne ailleurs.
Non, il fait partie des... Ça me semble la moindre des choses. Il fait partie du... On le rend visible. Les trois quarts des films n'ont pas de son. Ils n'ont pas de son au sens où Jacobson parle du son. Ils n'ont pas de son. Ils ont des bruits qui sont des bruits bêtes. Et voilà, on fait ça et puis on entend le bruit. Alors si on appelle, moi aussi j'appelle ça du son, mais alors soit on le fait musicalement, ça quelque chose, soit on en fait quelque chose, soit... Enfin, les films n'ont pas de son, qui soit, mais du reste c'est pour ça. Moins il y a d'art de son ou d'art d'image, plus la technique ou les techniciens ont pris le... exagère et on fait un paquet cadeau de la technique, on dit Dolby, on dit ceci, microprocesseur, écran, comme ça, moi il y en a, il n'y a plus du tout, c'est la machine qui pense aujourd'hui depuis longtemps, depuis après la Première Guerre mondiale. Forcément la machine pensant, les hommes pensent moins. C'est la machine qui travaille. Là nous on travaille un peu, monsieur ne fait rien. C'est Nagra qui travaille, c'est le Sennheiser ou le Neumann qui travaille. Et voilà. Alors forcément, quand il n'y a plus de travail, s'il n'y a plus de travail, il y a forcément moins de travailleurs. S'il y a moins de travailleurs, il y a plus de chômage. S'il y a plus de chômage, il y a moins d'emplois. Alors tout ce qu'ils essayent de protéger, c'est un emploi, c'est pas du travail qu'ils cherchent, c'est un emploi. Le travail, il n'y en a plus, toutes les trois quarts de nos petites machines le font. Mais le travail se fait moins, là c'est la machine qui travaille. Un peu vous et moi. Mais s'il n'y avait pas la machine, là on ne ferait rien.
Lorsqu'on s'exprime, on dit toujours plus qu'on ne veut. puisqu'on croit exprimer l'individuel et qu'on dit l'universel. J'ai froid. C'est moi qui dis j'ai froid. Mais ce n'est pas moi que l'on entend. Je vais disparaître ces deux mots de ma parole. Aussitôt que je l'ai prononcé, il ne reste plus de moi que l'homme qui a froid. Et cet homme appartient à tous. Où habitez-vous ? Dans le langage. Et je ne peux me taire. En parlant, je me jette dans un ordre inconnu, étranger. Et j'en deviens soudain responsable. Il faut que je devienne universel. Réalisé avec humilité, avec précaution, au moyen de ma propre chair, l'universalité où je me suis jeté d'abord à l'étourdi. Voilà mon unique possibilité. Voilà l'unique commandement. J'ai dit que j'aime. Voilà la promesse.
Comment est-ce que vous avez progressé dans ce film ? C'est à partir, par exemple, d'un ensemble, d'un réseau de citations ?
Les citations, sauf que je prends mon bien où il trouve, mais c'est si on filme un arbre ou un lac ou une rue avec des voitures, c'est pas moi qui les ai inventées. C'est des choses, les livres existent. Moi, je ne dis même... Si on veut parler de l'auteur, on fait un film sur l'auteur. Si on veut se servir, je pense qu'on peut se servir de son bien. C'est un bien humain. S'il nous fait penser, il est là. C'est très... Non, c'est pas le... Ça vient comme ça. Je m'en souviens plus. On l'a fait très vite. On l'a fait très vite. Et donc, il ne peut se faire que... Que ça, c'est un peu, on pourrait dire, une journée. J'ai souvent des jeunes metteurs en scène ou des aspirants disent voudraient faire des films. Et depuis longtemps, j'ai pensé, je leur dis, je l'ai jamais fait pour moi-même. Et là, comme je ne savais pas trop quoi faire, je me suis dit, il faut bien faire ça. Surtout qu'il y avait une commande qui était Godard par Godard, qui demandait Gaumont. Derrière ça, arriver à faire quelque chose qui est... disons, donner une idée d'une de ces journées, en tout cas d'une journée de décembre, puisqu'on était en décembre. Le lendemain, ça aurait pu être autre chose. Et les trois quarts des gens, quand ils racontent leur vie, ils les racontent comme la police. Je me suis levé le matin, je me suis lavé les dents, j'ai pris mon café, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Et ils savent très bien au fond d'eux-mêmes que... Si on leur dit, mais c'était ça ta journée, ce que tu avais dans ton cœur, dans ton esprit, c'était ça que tu espérais, c'était ça que tu craignais. Ils savent bien qu'il y a tout un monde qui prend, je sais pas, 20 ans à Balzac ou pareil à Tolstoï pour le décrire, que c'est autre chose. Et donc, les jeunes metteurs en scène, je leur dis, essaye de penser à raconter ta journée et à penser que tu ne sais pas la raconter, que les moyens artistiques que tu as choisis. Que tu ne peux pas, si tu devais la raconter, tu ne peux pas, ou tu ne peux la raconter comme le raconterait le commissaire de police. Donc c'était ça aussi.
Car la stéréo existe aussi en histoire. Il y avait Euclide. Et puis il y a eu Pascal qui a réfléchi. Et c'est l'hexagramme mystique. Mais dans l'histoire de l'histoire, il y a eu l'Allemagne qui a projeté Israël. Israël a réfléchi cette projection et Israël a trouvé sa croix. Et la loi de la stéréo continue. Israël a projeté le peuple palestinien et le peuple palestinien, à son tour, à porter sa croix. Voilà la vraie légende de la stéréo.
Il y a une très belle fable, celle de la stéréo.
Oui, ça me semble une vérité historique, mais qui n'est pas dite comme ça. C'est ce à quoi peut servir le cinéma, de le montrer, cette figure fondamentale du triangle. Et que les gens, que le cinéma, si on raconte cette histoire du triangle, vu comme ça, on voit qu'elle est... Il y a beaucoup de choses et que le cinéma, en gros, disons, n'en a utilisé qu'une très faible partie, puisqu'il n'a traité en gros que l'homme, la femme et l'amant, c'est-à-dire le côté même pas fait d'eau, disons, Jean de Lettrain. Donc c'est très faible. C'est très faible et on peut comprendre, enfin, qui est mon idée, moi, historique aujourd'hui, mais l'histoire, je crois, est quelque chose qui ne plaît pas aux gens. Je m'en aperçois avec les débuts, l'histoire ne plaît pas aux gens, tout de suite après, qui est quelque chose qui m'a toujours un peu questionné, comme on dit, l'histoire des camps de concentration, puisque à la fin de la guerre j'avais 12 ans, et que j'ai mis un peu plus vite que l'ensemble des peuples à me demander ce qui s'était passé pendant cette guerre, un peu dont mes parents ne m'avaient pas parlé. En plus, mon père était médecin à l'époque à la Croix-Rouge et il devait certainement en avoir entendu parler ou comme ça. Or, rien. Donc, c'est... Et petit à petit, bien que je me sente ni coupable, ni comme ça, que l'antisémitisme, bien qu'étant dans une famille qui était plutôt collaboratrice pendant la guerre, disons, en idée, d'où, je crois pas dans les faits, mais n'étant pas concerné, je vois pas comment est-ce qu'on peut être anti, ça n'a pas de sens pour moi d'être anti-juif, anti-indien, anti-tzigane, ou comme ça, c'est une incompréhension complète. Mais je vois que ça a existé, je me demande comment ça a pu exister, pourquoi cette histoire d'abord été oubliée aussi vite qu'elle avait été faite, et ensuite a mis environ 50 ans à remonter, puisqu'il y a encore aujourd'hui des procès et que... Et ce qui se passe en France est intéressant, parce que la France a été un des pays qui a eu le plus de mal à assumer cette chose, pour arriver à raconter l'histoire ou son histoire. Et je crois que les gens n'aiment pas beaucoup ils aiment bien qu'on enjolive l'histoire, qu'on leur raconte des histoires, mais non pas qu'on leur raconte l'histoire. Et que le cinéma était spécialement fait pour ça, puisqu'il s'aidait du visible. Et que ça, alors, on n'en a pas voulu, que les cinéastes ne l'ont pas voulu, et que ça ne s'est pas fait, puis qu'il y a eu quelque chose d'autre. Parce qu'il faut un certain temps entre le passé et le présent. Entre le passé, la caméra de cinéma et le projecteur de cinéma sont très différents du projecteur de la caméra de télévision et de l'écran de télévision, qui, elle, c'est du direct. Bon, qu'on le passe demain ou ailleurs, il y a un phénomène direct. Entre la caméra et le cinéma, il se produit un moment, et le projecteur, il se produit un moment quelque chose, c'est qu'il y a un trou. C'est pas par là qu'on dit un trou de mémoire, mais il y a une espèce de trou pendant lequel le négatif se développe, devient du positif et est projeté. En gros, on peut dire, on enregistre aujourd'hui et on projette demain, ce qui correspond à l'idée bête de présent. Ce présent devient passé, et puis une fois qu'il est passé, l'avenir est devenu présent. Enfin, des trucs, des lapalissades comme ça, mais des lapalissades profondes. Et le cinéma, dans sa façon même d'être, que n'est pas du tout la littérature, sa façon mécanique, bêtement mécanique d'être, était comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui pouvait non seulement raconter des histoires, il ne s'en est pas privé, mais raconter l'histoire. Alors, s'il avait commencé et continué, qui pouvait raconter l'histoire, c'est-à-dire penser pour plusieurs, penser scientifiquement s'il faut, mais penser aussi pour plusieurs, socialement. Ensuite, alors, il peut raconter des histoires plus belles, aussi belles que celles de la littérature, avec tout le charme du, disons, du visible, de ce qu'a été le cinéma. Or, tout de suite, on s'est jeté sur ces charmes, et disons, la princesse est devenue une prostituée, si j'ose dire. Et le public est devenu, entre le public et la production, c'était le macro. Il n'y a que lui qui pouvait raconter cette histoire. Or, ça m'a frappé en faisant l'histoire du cinéma, que ça s'est arrêté. Tous les films ont toujours annoncé, ils ont pris les relais de la musique, ils ont annoncé ce qui allait se passer de mal ou comme ça, ils l'ont annoncé. Et puis on ne les a pas crus à ce moment-là, les plus célèbres. Quand Renoir a fait La Grande Illusion, il pensait que ça allait être un échec. Il s'est même caché à la campagne un moment. Il est ressorti quand il a vu le nombre d'entrées que ça fait. Puis là-dessus, il a fait La Règle du Jeu. Et ben, là, on aurait pu penser qu'après le triomphe de La Grande Illusion, ce qui était dit dans La Règle du Jeu serait entendu. Eh ben non, pareil pour le dictateur, pareil pour des centaines d'autres. Même Lubitsch, quand il a fait To Be or Not To Be en plein dans la guerre, et qu'il a fait rire avec le mot de camp de concentration, Et le cinéma, enfin, n'a pas, même les actualités, on n'a pas filmé les camps. La radio avait démissionné, parce que la radio, qui était puissante à ce moment-là, la radio aurait pu faire entendre des choses, elle ne les a jamais fait. Donc il y a eu une démission, et à partir de ce moment-là, ben, il y a eu le déclin du cinématographe sous la forme sous laquelle on le connaissait. Et est venue la naissance de la télévision, c'est-à-dire le triomphe a posteriori de la radio en direct telle que Hitler la connaissait. Et le cinéma a arrêté. Il avait eu une occasion de penser, il a arrêté, c'est tout. Il a arrêté, ça s'est fait. Donc aujourd'hui, il y a le déclin, il est remplacé par d'autres. Et il changera sous la forme. Qu'est-ce que ça deviendra? Il y aura peut-être toujours des films. Enfin, ça prendra tout ça prend toujours beaucoup plus de temps qu'on ne croit. La perspective en peinture a mis 4 ou 5 siècles à être retrouvée, et puis a mis 4 ou 5 siècles après à être oubliée. Les livres saints nous disent qu'avant de partir en voyage, les filles de Lot voulurent se retourner une dernière fois, et qu'elles furent changées en statue de sel. Or, on ne filme que le passé, je veux dire que ce qui se passe. Et ce sont des selles d'argent qui fixent la lumière. Personne ne nie que le télescope ou que le microscope a fait, changer, non pas changer, mais approfondi, mettons, des choses que pouvait dire Aristote ou Démocrite ou que sais-je, et que le microscope a aidé la pensée, puis à des moments, on croit qu'il lui faut d'autres, et ils se trompent parce qu'ils ne sont pas allés. Il y a un autre instrument dont il ne s'est pas servi, qu'on devrait appeler, mais on appelle ça aujourd'hui pour les petites vidéos pour enfants, le caméscope, la caméra-scope, si vous voulez. Scope, c'est le mot grec qui veut dire un peu plus large, chambre, un peu plus. Voir dans sa chambre. La caméra-scope, c'est voir dans sa chambre.
Vous disiez, ça ne changera pas, mais qu'est-ce qui ne changera pas par rapport à...
Ça n'a jamais été accepté. On a toujours pris pour un truc. Comme des instruments de moulinex, un truc pour s'amuser, pour faire voir des choses impossibles, puis surtout gagner de l'argent. Pasteur ne voulait pas gagner de l'argent. Siba veut d'abord gagner de l'argent. Quand les gens voudront guérir le cancer avant de gagner de l'argent, ils le guériront. Comme ils veulent gagner de l'argent guérissant le cancer, bon ben, il y a des petites choses qui se passent et puis à côté se produit autre chose. On guérit le cancer, mais Sarajevo est détruit.
Ben, quand même, ce film, JLG, vient après toute une série de films. Bon, avec Sauf qui peut la vie, Passion, Je vous salue Marie, Détective, Hélas pour moi. Avec ce film, il y a quand même une sorte de rupture. C'est un peu le travail du deuil.
Non, il reste un film que je voulais... Ouais, mais je le dis au début, j'étais en deuil, je commence à sortir de deuil, peut-être maintenant. J'étais en deuil au début, je me suis trompé. J'étais en deuil alors qu'il n'y avait rien de mort. J'ai dû être inversé, ou je ne sais pas quoi, Mais là, disons, c'est un film, effectivement, on peut dire, où je peux dire, ben, je l'ai un peu choisi. Bon, j'ai accepté une commande, mais la commande était tellement vague, c'était du domaine du prince de Metternich ou de le roi de Prusse qui commandait à Mozart, ben, dans 3 semaines, amenez-moi un petit concerto. Voilà, c'était ça. Les autres étaient plus des films suscités, mendiés, mais que c'est pas moi qui ai choisi, c'est pas ça. Tous les films que je voulais faire, je les ai jamais... C'est peut-être pas plus mal, car je les aurais pas fait, mais c'est pas ça du tout. Tous les films, il y en a des centaines, des dizaines d'autres, c'est pas ça. Puis le cinéma ne peut pas se faire à très peu de frais aujourd'hui qu'une petite caméra de télévision. Et encore, on peut faire des choses plus simples. Mais faisant des choses simples, je dirais, oui, c'est un peu plus comme ça, un peu plus des essais.
C'est un film qu'on n'a encore jamais fait.
Ah, vous dites vrai, mademoiselle. C'est un film que personne n'a vu.
André Labarre, est-ce qu'il y a un travail du deuil chez Godard?
Si on regarde l'image de JLG, par exemple, je dirais oui. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est un décor avec des abat-jour. Lui est filmé en contre-jour, à contre-éclairage, la plupart du temps. Un petit peu comme lorsqu'on veut essayer de désincarner une image, un personnage. On essaie de le filmer à contre-jour, de façon à ce que sa chair disparaisse. Il y a un peu ça, mais il y a un peu ça dans les tout derniers Godard. C'est-à-dire, c'est des Godard un peu crépusculaires, disons. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est surtout que ça, que si on peut dire, cette désincarnation s'incarne dans le cinéma. Ça se voit, c'est du cinéma. C'est-à-dire, c'est de la manipulation. Et je trouve que dans les derniers Godard, bon, il a toujours été manipulateur, mais ça va de plus en plus où le cinéma ne devient que manipulation, un peu comme le dernier film de Wells. Il y avait un peu ça aussi, je trouve. Et à partir du moment où on entre dans la manipulation, c'est sans fin. Les derniers films de Wells, ce sont les films inachevés. Chez Godard, on ne sait pas où s'arrête un film, où commence le suivant, si bien que lui-même, d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il ne savait pas ce qui tournait, si ça allait faire partie d'un film plutôt que d'un autre. Lui, je trouve qu'il retrouve la force de la vraie fiction. Ces derniers films, pour moi, c'est ça, la vraie fiction. C'est-à-dire, il sait qu'il faut faire arriver des choses pour qu'on ait le sentiment d'exister. Parce que je crois que son problème, c'est ça. C'est qu'il cherche à exister, lui. Et que pour exister, lui, il faut qu'il fasse exister quelque chose.
Donc vous voulez dire qu'il a voulu briser la vie pour trouver la vie?
Oui, je crois. Il faut casser quelque chose.
Mais bon, il a quand même beaucoup cassé. Bon, il a cassé le cinéma pour ne pas en faire. Il interrompt le festival de Cannes en mai 68.
Mais il n'était pas le seul.
Il défend la Cinémathèque à coup de pavé.
Mais il n'était pas le seul non plus, oui. Oui, oui.
Il fait scandale avec « Je vous salue Marie ». Je veux dire par là que Jean-Luc Godard est quelqu'un qui nous accompagne dans notre vie.
Il nous accompagne, oui. Il nous a fait prendre conscience de certaines choses.
Claude Guillaumin, 24 janvier 1985.
Bonjour. Scandaleux ou pas, à peine sorti sur les écrans, le film de Jean-Luc Godard, « Je vous salue Marie », provoque bien des réactions. Jean-Marc Stricker.
Des associations catholiques crient au scandale, l'épiscopat français crie au chef-d'œuvre.
Grossièreté, parodie, travestissement, viol, nu, voilà pour le réquisitoire. Maintenant la défense, Jean-Luc Godard lui-même, au micro de Françoise Maupin de l'agence France-Presse.
Probablement que la virginité est quelque chose qui est encore puissant et qui peut faire scandale. Moi je me souviens qu'à l'époque du petit soldat, M. Le Pen avait demandé que je sois extradé du territoire. Ben là, disons Marie, c'est pas le petit soldat, mais c'est, comme disait Bernanos, la cadette du genre humain. Et probablement que la cadette du genre humain énerve beaucoup, énerve encore des gens. Du reste, que ça soit cette association ou des gens comme Libération.
Alors, par-delà les attaques et les justifications, quelle est la position de l'Église catholique? Gérard Pangon, qui est le responsable de l'Office catholique français du cinéma, a envoyé une note à tous les évêques de France et à tous les diocèses pour leur dire « Voici comment l'Église juge ce film et ce que vous devez répondre à ceux qui vous poseraient des questions ». Gérard Pangon a résumé son point de vue à Philippe Chaffange.
Pour ceux qui n'ont pas vu le film, cette scène de l'affiche, c'est la scène où on voit le ventre de Marie.
On voit le ventre de Marie et on voit surtout une main qui se refuse à la toucher, parce que Marie plaide, et le film, en ce sens-là, est un film en faveur de la pureté, Marie plaide pour l'amour créateur sans possession, sans le toucher, c'est-à-dire l'amour pur. Et je crois que si on regarde le film avec cette optique-là, les scènes de nu, qui sont des scènes où Marie se pose des questions, est tiraillée entre la pureté et le plaisir. Quand on regarde le film avec l'optique, c'est un film pur, alors on a tout compris et tout va bien. Est-ce que Godard, avec l'apport culturel qu'on a eu depuis 20 siècles, est-ce que Godard ne peut pas aussi avoir un regard différent? Est-ce que ce regard différent n'invite pas à la réflexion, à une autre réflexion située dans notre époque? Je crois que c'est ça qui est important.
Alors, pour compléter le dossier, nous revenons maintenant au principal intéressé, c'est-à-dire à Jean-Luc Godard. Avant que la polémique éclate, Jean-Marc Stricker lui avait demandé comment il voyait ce personnage de la Vierge Marie et ce dogme de la civilisation chrétienne transposé de nos jours. Voici sa réponse.
Je n'ai pas pensé à transposer, ça me paraissait une histoire tout à fait naturelle, l'Immaculée Conception. Toute naissance est immaculée, un film ça s'appelle un film vierge, une page blanche ça s'appelle aussi une page vierge, une bande, enfin les bandes que vous utilisez vous les appelez des bandes vierges, voilà, donc ça me paraissait tout à fait naturel, pour moi il n'y a aucune transposition. Enfin c'est un rapport direct avec l'Immaculée Conception, avec le fait que les toutes mères, c'est Lacan qui disait ça, que toute femme baise avec Dieu et toute femme... même honnête, toute femme a envie de faire l'amour sans qu'il le sache, si vous voulez. C'est ce côté inconnu, de naissance inconnue, dont l'Évangile a traité et qui ressort aujourd'hui dans le désir des femmes. La virginité était faite de l'intérieur, si on veut, et pas de l'extérieur. Quelqu'un m'a dit qu'il le trouve. Ils m'ont demandé pourquoi j'avais pris un Palestinien pour faire l'ange Gabriel. Et je trouvais très bien. Je disais, ben oui, c'est quelqu'un, il est nulle part. Hein. C'est, il n'y a que les anges qui sont nulle part entre la terre et le ciel. Et puis, je pense que Gabriel, c'était une situation violente et qu'il n'avait pas à se cacher de sa violence. Et par rapport à Joseph, qui est aussi quand même un des personnages principaux sans qui cette histoire n'existerait pas et que le Saint-Esprit aurait pu faire tout seul, et il a tenu à ce que Joseph soit associé. Et le Christ dit à un moment, mais comment un enfant peut-il avoir deux pères? Et bien, il dit, mais il y en a un qui l'engendre et l'autre qui l'adopte.
Bien, voilà donc la position de Godard sur sa conception de ce « Je vous salue Marie ». Et je voudrais maintenant, pour vous donner une idée un peu de l'ambiance de ce film, vous faire entendre un très court extrait sonore.
Où t'en es avec Marie?
Allez,
Roussel, bonjour. Vous pouvez nous situer cette scène dont nous venons d'entendre quelques secondes? Je crois que ça se passe pendant un match de basket.
C'est oui, ça, non, c'est au début du film. Je pense que c'est la présentation de tous les personnages du film. Et donc là, il parle, c'est l'ami de Joseph, donc la petite amie de Joseph, puisque Marie ne veut pas qu'il la touche, qui parle avec lui, et puis en même temps, on commence à présenter le basket.
Autoportrait, autobiographie.
Qui aimerait parler de vous et qui est-ce que vous aimeriez entendre dans cette émission?
Moi, personne. Personne. Je connais personne.
Jean-Marie Straub avait quand même choisi, par exemple, des techniciens, des artisans techniciens.
Oh, alors moi, je suis mal avec tous, donc il n'y en a aucun. Bon.
Un critique, un philosophe, un écrivain?
J'en connais... Non, je ne connais pas.
Un ingénieur du son, un cadreur, un opérateur,
hein?
Un grand comédien, un grand acteur. Qu'est-ce qui resterait comme grand...
Mais là, j'en connais pas, déjà. Peut-être avant 68, j'aurais pu vous dire des noms, mais aujourd'hui, là, rien. Rien. Rien, je vois pas.
Personne, vous voulez dire?
Il y a soit des morts, et dans les vivants, je vois, je sais pas, il y a des gens, je vois. Je pourrais être intéressé à ce qui... Mais a priori, comme ça, non, ils parleraient de l'homme, de l'œuvre, ils la connaissent pas. Alors, il parle vaguement de ce qu'ils
ont. Anna Karina la connaît quand même un peu.
Non, mais elle n'a pas vu les 3/4 de mes films. Mais je me suis dit, je ne sais pas ce qu'elle devient, là, je ne sais rien. Non. Non, puis aujourd'hui, on a tendance à... C'est ce que je vous disais, le travail n'existe plus. Donc, la chose faite, le résultat du travail, on n'en parle pas. On parle de celui... Si j'ose dire, de celui qui ne fait pas le travail et qui a réussi à acquérir une grande notoriété en faisant croire qu'il fait le travail. Que ce soit Chirac, Balladur, Tapie, Clinton ou X. Donc, mais l'œuvre, et quand il y a l'œuvre, on n'en parle pas. L'homme passe avant l'œuvre. À cause de ça, il n'y a plus de travail. Pour moi, l'œuvre passe avant l'homme. L'homme existe sur la terre parce qu'il fait une œuvre, d'abord son existence, et qu'il y a des preuves matérielles de son existence, artistique ou technique, des cailloux sculptés, des peintures, des monuments, des films, des musiques ou comme ça. Sinon, s'il n'y avait pas, l'homme n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, on parle que... Et donc, ça va très mal à cause de ça. À part pour deux ou trois malins qui prélèvent leur dîme sur la... Je sais pas, sur la communication.
Vous dramatisez quand même. Vous avez des amis...
Mais c'est pas dramatique de dire
Jean-Marie
ça.
Jean-Marie Straub. Vous vous appelez de temps en temps?
Rarement. Rarement et rarement.
Rivette, mais... vous allez au cinéma, mais ensemble?
Non.
Voir le film de Straub?
Non, jamais.
Vous étiez ensemble?
Non, jamais. Non, on n'a pas d'occasion. Et ça a été une déconvenue pour moi, mais dont maintenant, avec l'âge, j'essaye de m'en consoler. Le seul endroit où je communique, à part un ou deux amis ou connaissants, mais moi j'en ai pas 36, j'en ai qu'un qui est Anne-Marie et un ou deux producteurs quand je fais un film.
Nicolas Sédoux.
Non, je reprends Nicolas Sédoux, Alain Saint-Nicolas.
Vous en parlez comme si c'était votre père.
C'est mon père dans la mesure où il me refuse l'argent que je lui donne. C'est dans ce sens-là que je le comparais à mon père. Il disait, donne-moi de l'argent. Il disait, dis-moi ce que tu veux, je le donnerai. Je dirais, non, donne-moi de l'argent, je te montrerai ce que j'en ferai. Il dirait, non, dis-moi ce que tu veux. Voilà. Et puis, je n'avais pas d'argent. Avec Nicolas, c'est pareil. C'est pas... Non, ça n'a pas... Avec un producteur, ceci dit, on parle un tout petit peu au moment de faire... Mais c'est tout, mais on ne peut pas dire que c'est des amis, à part Alain Sard. Quand on a fait 10 films, au bout d'un moment, c'est une amitié de métier, mais il y a peu, sinon j'en ai pas. Et je me suis remis à jouer au tennis, parce qu'au tennis, quand on envoie la balle quelque part, le principe, c'est de vous la renvoyer. Alors que dans la vie aujourd'hui, quand on envoie la balle quelque part, le principe, c'est c'est de la garder, et de ne pas vous la renvoyer, de vous redemander encore de vous en envoyer une. Donc je vois peu, je communique trop avec moi-même, alors j'essaye de passer par un peu de journaux, de théâtre et par de création, et par l'œuvre, mais c'est effectivement où j'ai fondé une société de cinéma, la seule personne qui ait accepté d'en faire partie, c'est Anne-Marie Miéville.
Mais Jean-Luc Godard.
Je n'ai trouvé personne d'autre dans le cinéma qui a accepté d'avoir une société commune, ce qui autrefois était courant. Ça ne veut pas dire être forcément toujours ensemble. Ça veut dire avoir une structure économique un peu commune pour s'aider, et en dehors de tout militant, pour le film, des choses comme ça. Et ça, j'ai pas réussi, on n'a pas réussi. En dehors des sentiers battus du système hollywoodien, tout petit comme il est en Europe ou plus grand comme il est en Amérique. Sans cette espèce de fausse convivialité, camaraderie pour la cause de... Quand il n'y a que la cause du cinéma, non. C'est... Quand il y a Sarajevo, bon, il y a 10 personnes qui se mettent ensemble, qui louent une caméra et qui font... Ni le cinéma, ni Sarajevo n'existent là-dedans. Eux existent, ben, c'est très bien, mais ils ne le disent pas.
Donc, vous aimez quand
donc,
même...
Donc, là, je vous dis, peut-être si vous me citez un nom que je... Mais je ne vois pas.
Prenons le problème autrement. D'ailleurs, ce n'est même pas un problème. Mais enfin, il y a 3 heures d'émission avec vous et sur vous. Vous aimez le son, vous aimez la radio. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre ?
La radio, je n'écoute jamais.
Là, vous,
mais j'adore.
Vous n'êtes plus avec nous, là. Hein.
Mais j'adore.
Vous nous quittez, là, voilà.
Mais j'ai tort, je devrais me faire mettre la radio pour avoir au moins France Musique et France Culture que j'écouterai un peu plus. Parce qu'effectivement, les gens de radio parlent un peu plus lentement, un peu plus longtemps. La télévision, je supporte mal la rapidité des locutions, je ne retiens rien. Et quand je regarde le journal télévisé, alors je dois être un des rares à le regarder sans le son. Je lis un ou deux journaux régulièrement parce que il y a des histoires, et surtout quand les histoires se suivent. J'aime bien les affaires là, en ce moment parce que ça se suit un peu. Mais je me dis ça va bientôt être fini, donc qu'est-ce qu'ils vont... J'espère qu'ils vont... Depuis la nouvelle vague, il n'y a plus de correspondance. Depuis que chacun s'est mis à faire des films, il n'y en a plus. Il y a des gens qui en souffrent moins. Je pense que Straub ne doit pas être très heureux. Non, je vois peu. C'est-à-dire, je pense que je suis grosso modo comme tout le monde, mais les 3/4 des gens qui voient... Dans le cinéma, c'est des fausses connaissances. Ceci dit, ils ont besoin de ça. Donc là, je veux jouer de temps en temps, mais André Labarthe, qui est quasiment presque la même époque que moi au cahier, mais je vois pas d'autres. Mais Labarthe, il a déjà fait beaucoup. J'ai fait jouer dans 2 ou 3 de mes petits films. pour justement garder des liens avec quelqu'un. Moi, je m'ennuie un peu au bout d'un moment si on ne peut pas discuter vraiment de philosopher sur quelque chose. Non, je suis désolé, ça, je vois pas qui je peux vous indiquer, parce que franchement, je vois pas. Il y a 4 ans, je vous aurais dit Serge Danette, demandez-lui, mais là, je vois pas.
Moi, le cinéma, ça m'a promis le monde, pas la société. Qu'est-ce qui me revient par la télé ? La société. Moi, j'ai peur.
C'est vraiment bête à dire, le cinéma, il n'y a qu'à regarder comment ça fonctionne. Ça fonctionne avec 2 bobines. La télévision a repris ce système-là dans la mesure où elle prend de l'enregistrement, mais la télévision, c'est pas ça. Ils feront... La technique suivra, en fait, c'est du direct. Ils font du différé pour des raisons politiques ou sociales. Mais en direct, il n'y a pas de bobine, il n'y a pas d'enregistrement. Et c'est pas ça, il y a 2 bobines parce qu'il y en a une qui devient l'autre. C'est une image en elle-même de notre vie, de notre passé, de nos choses, de notre mémoire. Puis entre les deux, il y a la mémoire secrète. À partir du moment où on enregistre la mémoire, comme pense naïvement le faire Spielberg, on enregistre autre chose, c'est du pouvoir ou des choses comme ça. La mémoire ne s'enregistre pas.